qui nous sont rapportées dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, qui nous arrêtera ce matin donc dans notre méditation. 5 questions retiendront notre attention, et en les écoutant, vous les situerez sans doute assez facilement dans leur contexte. Où es-tu? Où est ton frère? Pourquoi a-t-elle ri? Qui dites-vous que je suis? M'aimes-tu? Nous reprendrons chacune de ces questions dans 5 parties différentes que j'ai choisi d'intituler « La révolte de l'homme contre Dieu », « La haine de l'homme pour l'homme », « L'incrédulité de l'homme vis-à-vis de Dieu », « La rencontre du Christ », « L'amour pour le Seigneur ». Premièrement donc, une première question, et nous la trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Livre de la Genèse, chapitre 3, versets 8 et 9. « Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu ? » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis né, car je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » ou la révolte de l'homme contre Dieu. Adam et Ève ont fait fi de la mise en garde des commandements de Dieu. Ils ont écouté les mensonges de l'adversaire et leurs désirs propres, plus que la voix pourtant précise de Dieu et ses commandements. « Tu ne mangeras pas de cet arbre-là », avait dit Dieu. Mais ils virent, dit le texte, que le fruit était bon à manger, semblait bon à manger, agréable à la vue, et ils désobéirent et en prirent. Et depuis cette première désobéissance, les hommes n'ont cessé de négliger les commandements de Dieu et d'en faire à leur tête, selon leurs désirs. Toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de cette révolte, de cette volonté d'indépendance à l'égard de Dieu qu'affiche l'homme. L'homme, c'est l'homme révolté. C'est l'homme qui veut vivre pour lui-même, l'homme qui fait de lui-même son Dieu. C'est là son drame, et le drame de cette humanité déchue, si différente de ce qu'elle devait être. Mais Dieu intervient. Dès le début, il ne laisse pas l'homme dans son péché, dans sa révolte, sans chercher à le ramener à lui. Où es-tu ? Dieu savait bien sûr où se trouvaient Adam et Ève et ce qu'ils avaient fait. Mais il voulait les retrouver, les forcer à revenir vers lui, les obliger à reconnaître leur désobéissance, non pour les détruire, mais pour les empêcher d'aller encore plus loin dans le mal et pour ouvrir déjà le sentier de sa grâce. Cette question qui, bien évidemment, place Adam et Ève face à leur révolte, à leur péché, question qu'ils voudraient ne pas entendre, et pourtant leur meilleure chance. Que pourraient-ils espérer si Dieu n'intervenait pas auprès d'eux, les laissait déjà totalement jouir du fruit amer de leur désobéissance, si Dieu restait sans rien dire? Mais Dieu qui appelle, c'est déjà tellement inespéré. Dieu appelle les hommes. Il appelle chacun. Où es-tu? Où es-tu dans ce que tu vis? Qu'as-tu fait de ta vie? Où sont ce que j'attendais, ta fidélité, ton obéissance, ta justice? As-tu cherché à faire ma volonté, à m'être agréable? Ou as-tu cherché seulement ton plaisir et ta satisfaction propre? Quelles ont été tes priorités dans la vie? Où en es-tu maintenant? Qu'as-tu à dire qui justifie tes actions, ton comportement? Es-tu au clair devant moi? Où vas-tu chercher à me fuir, à fuir la réalité de ce que tu es et que je connais de toi? Oui, Dieu pose à chaque homme, un jour ou l'autre, cette question. Où es-tu? Et de même qu'Adam, qui se cachait, dut répondre de même chaque homme, ce jour-là, doit répondre. Puisse cette réponse ne pas être trop tardive, ou trop désespérée, ou trop dans l'angoisse. Toujours dans le livre de la Genèse, mais au chapitre 4, quelques versets. Versets 8 et 9. Cependant, Caïn dit à son frère, « Sortons. » Quand ils furent dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « J'en sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère ?»« Où est ton frère ?»« Où est ton frère ?» Ou la haine des hommes, les uns envers les autres. Dieu appelle Caïn, qui vient de tuer son frère Abel par haine et jalousie. La révolte de l'homme contre Dieu mène très vite à des conséquences dramatiques. La haine, la colère, le meurtre, les guerres, tout vient de ce désir de l'homme de vivre sans Dieu. Là encore, Dieu voit, Dieu sait ce que l'homme fait. Mais au lieu de punir de façon absolue comme ce serait mérité, Dieu veut encore essayer de sauver quelque chose de la relation entre lui et sa créature. Et cette question qui vient chercher Caïn dans sa solitude est une accusation. Mais elle est aussi une porte ouverte à la reprise d'une relation avec lui. C'est Dieu qui fait ce pas vers l'homme pécheur. Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ? Dieu se tourne vers les hommes, vers tout homme, et leur demande ce qu'ils font les uns vis-à-vis des autres. Comment traites-tu cet autre, qui est ton frère, qui est ta sœur? Comment es-tu avec eux? Vous ne cessez de vous battre, de vous agresser, de vous rejeter, de médire les uns les autres. Vous ne cessez de calomnier, de juger, de condamner. Vous ne cessez de faire du mal à votre prochain, jusqu'à le tuer parfois, jusqu'à le blesser souvent, jusqu'à l'humilier ou le maltraiter. La société humaine, depuis les temps les plus anciens, donne le spectacle de l'exclusion, du rejet d'autrui par chacun. Oh, certes, de bonnes choses, dans la grâce de Dieu, ont existé et favorisé un minimum la paix, faute de quoi les hommes se seraient totalement anéantis. Mais cela est bien faible et partiel, hélas, à cause de cette méchanceté de l'homme. À cause de cette révolte contre Dieu et de cette révolte de l'homme contre l'homme. Au scribe qui vient lui demander ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle, Jésus répond, aime Dieu, aime ton prochain, aime-le comme toi-même. Voilà ce qui résume tous les commandements. Et à l'inverse, voilà ce qui résume, voilà la racine de tous les maux dont souffrent la terre et les hommes. Ne pas aimer Dieu, ne pas aimer son prochain, qu'as-tu fait de ton prochain ? Qu'as-tu fait pour lui ? Cette question traverse les siècles, et avec elle, hélas, tant de constatations tragiques dont déjà l'Ecclésiaste rend compte. Chapitre 3 de son livre, nous lisons ceci, « Voici ce que j'ai aussi observé sur la terre, la méchanceté règne, là où le droit devrait être appliqué. » Et la justice rendue. Je me suis dit alors que Dieu jugera le méchant comme le juste, car toute chose arrive en son temps, et chacune de nos actions sera jugée. En ce qui concerne les humains, je pense que Dieu les met à l'épreuve pour leur montrer qu'ils ne valent pas mieux que les bêtes. Chapitre 4. J'ai observé encore toutes les injustices qui existent sur la terre. Les opprimés crient leur détresse, et personne ne leur vient en aide. Le pouvoir est du côté des oppresseurs, et bien que, si bien que personne ne peut leur venir en aide. J'ai découvert aussi que les hommes peinent et s'appliquent dans leur travail uniquement pour réussir mieux que leurs voisins. Cela est aussi inutile que poursuivre le vent. Cette question, elle est aussi pour nous. Qu'ai-je fait de mon prochain ? Qu'avons-nous fait de l'autre, des autres ? C'est une question pour chacun de nous en tant qu'individu. Que fais-je pour celui qui est à côté de moi, celui avec lequel je vis, avec lequel je travaille, que je côtoie? Mais c'est aussi une question pour l'Église. Que faisons-nous pour les autres? Que faisons-nous pour les églises moins favorisées que nous? Et puis c'est une question certainement aussi pour notre société. Que faisons-nous pour les malheureux de la terre. Que font nos sociétés pour cela? Encore dans le livre de la Genèse, mais un peu plus loin au chapitre 18. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente, à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit trois hommes qui se tenaient non loin de lui. Et vous savez, Abraham se précipite vers eux et il leur offre le repas. Et puis, voilà, à la fin de ce repas, ils lui demandèrent, verset 9, « Où est ta femme, Sarah ?»« Dans la tente, » répondit-il. L'un des visiteurs déclara, « Je reviens de chez toi l'an prochain à la même époque, et ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente derrière Abraham et elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même, car Abraham et elle étaient déjà vieux, et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc, « Maintenant je suis usée et mon mari est un vieillard, le temps du plaisir est passé. » Le Seigneur dit alors à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Pourquoi se dit-elle, c'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant ? » Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Ou l'incrédulité de l'être humain ? L'Éternel s'approche d'Abraham, ce n'est pas la première fois, et il lui confirme ses promesses d'une descendance nombreuse et bénie. Alors c'est vrai, il y a longtemps qu'Abraham et Sarah attendent la réalisation de cette promesse. Viendra-t-elle ? Lorsqu'elle est confirmée ici de manière précise, Sarah qui regarde à sa vieillesse et à celle de son mari ne peut s'empêcher de rire, du rire amer de l'étonnement, non de l'étonnement confiant, mais du rire de l'incrédulité. Considérant les choses d'un point de vue purement humain et physique, en effet, il paraît risible d'espérer encore. Mais Dieu, s'il promet, ne tiendra-t-il pas ses engagements ? Mais est-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur ? Sarah, si elle croit, vivra dans l'espérance cette naissance à venir. Si elle ne croit pas, cela viendra quand même, mais elle en profitera moins et ressentira quelque honte à son attitude. Alors c'est vrai, l'homme ne croit pas facilement les choses vraies. Son incrédulité est bien constante et bien frappante. L'homme rit souvent des affirmations de Dieu. Combien rit lorsque la résurrection de Christ leur est rappelée ? La vie éternelle ? Le salut par la foi en Christ ? Dieu qui reste proche des siens, de ses enfants ? Dieu qui parle vraiment dans ce livre que vous dites être sa parole ? Vous voulez rire ? Vous croyez vraiment ces choses ? Mais pourquoi riez-vous ? Pourquoi ris-tu ? Cela est aussi une question que Dieu pose à l'homme. Qu'est-ce qui t'empêche de croire ces choses ? Es-tu sûr de les avoir bien examinées ? Es-tu sûr du bien fondé de tes doutes ? Du bien fondé de ton incroyance ? Es-tu capable vraiment d'argumenter avec moi ? Nous doutons souvent et facilement des promesses de Dieu. Et nous croyons difficilement les vérités révélées par Dieu sur lui-même, sur son Fils, sur l'Esprit et sur son œuvre pour les hommes, alors que nous croyons que les hommes croient si facilement tant de balivernes. Je ne peux pas croire en Dieu, mais je prête attention à mon horoscope. Je touche du bois, mais ce que vous me dites sur Dieu, non, je ne peux pas y attacher de l'importance, cela me fait rire. Il ne s'agit pas simplement là de choses intellectuelles, aussi vraies et importantes soient-elles. Il s'agit de choses qui concernent chaque homme dans son existence même. Moi, vous, nous, que faisons-nous de ce que dit Dieu ? Y attachons-nous l'importance capitale qu'il convient d'y attacher ? Ou bien pensons-nous que cela ne peut être vrai, ou serait trop beau, ou trop grave, ou que cela ne nous concerne pas. Il y a là pourtant de quoi arrêter toute notre attention, puisqu'il y va de notre vie même. Une question dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, chapitre 9, verset 18. Un jour que Jésus priait seul, ses disciples le rejoignirent. Il leur demanda, « Que disent les foules à mon sujet ? » Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que l'un des prophètes d'autrefois est revenu à la vie. » Et vous leur demandez à Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Tu es le Messie de Dieu. » Jésus pose une première question à Pierre. Qui les hommes disent-ils que je suis? Mais la vraie question est celle qui concerne Pierre directement et les autres disciples. Et toi, qui dis-tu que je suis? La vraie question pour chacun de nous, c'est celle-ci. Et toi, qui dis-tu que je suis? Ce que les autres disent n'est pas sans importance. Nous témoignerons auprès d'eux pour qu'ils donnent une bonne réponse à cette question. Mais malgré tout, pour chacun de nous, l'essentiel, c'est « moi, que dis-je ?» L'essentiel, pour moi, c'est ce que moi je dis, ce que moi je crois par rapport à Jésus. Est-ce que j'ai répondu à cette question? Elle est à proprement parler vitale pour chacun. L'homme essaie sans doute souvent de ne pas entendre la question, ou veut donner une réponse toute faite, la réponse des autres parfois. Mais l'essentiel, c'est pourtant cela, pour moi. Qui est-il? Quel est-il? Est-il le Christ pour moi? Est-il mon Sauveur et mon Seigneur? Ai-je compris le besoin où j'étais? De son pardon? La réalité de mon péché, mon incapacité à me sauver moi-même? Ai-je compris l'immensité de sa grâce? Ai-je accepté de mourir à moi-même pour vivre avec lui? Personne ne peut répondre pour un autre. C'est à chacun de réfléchir, de décider, de venir au Christ pour accepter ce qu'il offre à celui qu'il aime. Y répondons-nous personnellement? Croyons-nous? Dernière question dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, et donc sur la plage, après une pêche devenue miraculeuse, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment? Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Puis il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Pierre qui affirmait avec foi et avec zèle et énergie que Jésus était le Christ. Pierre qui proclamait aussi à son maître, qu'il ne le quitterait jamais. Pierre l'apôtre fougueux et enthousiaste a renié Jésus lors de l'arrestation de celui-ci. Jésus jugé, condamné, crucifié, mort et ressuscité est apparu aux disciples déjà. Et ici il leur apparaît alors qu'ils pêchaient infructueusement. Et après le repas que Jésus a préparé sur la plage, par trois fois, il pose cette question à Pierre, comme un écho, sans doute, aux trois reniements de Pierre. Pierre, m'aimes-tu? C'est la question de l'amour pour Jésus qui lui est maintenant posée. Pas seulement donc la question de la foi, qui est Jésus? Qui dis-tu que je suis? Pas les premières questions que Dieu peut poser à l'homme. Où es-tu? Que fais-tu? Qu'as-tu fait de ton frère? Pourquoi as-tu ri? Pourquoi doutes-tu? Ces questions-là sont dépassées pour Pierre. Il est plus avancé sur le chemin vers Dieu avec Jésus. Mais Jésus veut le placer face à cette interrogation, se rapportant à leur communion même, à leur relation. Est-ce que tu m'aimes? Il ne suffit pas, en effet, de savoir des choses sur Jésus. Il ne suffit pas de connaître la vérité sur lui. Il ne suffit pas de croire en lui comme dans le Sauveur. Il faut encore une relation personnel avec lui, qui marque toute la vie. Il faut qu'à son amour réponde l'amour de l'homme. Il faut qu'à l'amour de Jésus pour Pierre réponde l'amour de Pierre pour Jésus. Il faut qu'à son amour pour nous, pour chacun de nous, pour chaque homme, réponde un amour en retour. Il faut que je l'aime. Il faut que nous l'aimions. Vous m'aimez si vous obéissez à mes commandements, si vous faites ma volonté, si vous cherchez à me connaître, à me suivre, à me ressembler. Vous m'aimez si vous écoutez ma voix, si vous vous engagez tous les jours sur ce chemin que j'ai tracé, celui du service, celui de l'amour. Si tu m'aimes, dit Jésus à Pierre, paie mes brebis. Si nous aimons Jésus, nous nous soucierons de nos frères et sœurs, de ceux que Dieu aime comme ses enfants. À nouveau, nous voyons ici qu'aimer Dieu, qu'aimer Jésus, cela mène inexorablement, pourrait-on dire, à devoir aimer notre prochain. Aimons-nous notre Sauveur. Nous soucions-nous de nos frères, de nos sœurs. Aimons-nous Jésus. Aimons-nous ceux que Dieu nous donne, qui nous donne à paître. C'est là ce à quoi il nous appelle. Certains parlent du silence de Dieu. Dieu ne parle pas, ne parlerait pas. Il serait tellement lointain, indifférent aux hommes, pour certains morts même dans ce silence. Mais pourtant Dieu parle. Il parle à l'homme depuis toujours. Depuis le premier homme et jusqu'à aujourd'hui, il ne cesse de chercher à restaurer le dialogue entre lui et sa créature. Et l'entendons-nous? Cherchons-nous à l'entendre? Cherchons-nous à lui répondre? Où es-tu? Où en es-tu dans ta vie? Où vas-tu ainsi sans moi? Qu'as-tu fait de ton frère? Regarde les relations que tu as avec ton frère, avec ton voisin, ton semblable, avec ta sœur. Que vis-tu ainsi? Tu es pourtant responsable de ton prochain, de ce que tu fais pour lui, ou de ce que tu ne fais pas. Où en es-tu? Pourquoi ris-tu? Pourquoi ton incrédulité? Tu crois pourtant tellement de choses, parmi les plus incroyables, les plus insensées, les plus inintéressantes. Pourquoi es-tu si difficile à atteindre? Pourquoi mets-tu tant de barrières? Ne peux-tu ouvrir tes yeux et tes oreilles pour voir et entendre et croire ton Dieu? N'est-il pas évident qu'il est Dieu? N'est-il pas évident que tu n'es pas une créature du hasard, que quelqu'un t'a créé et attend quelque chose de toi? Qui dis-tu que je suis, moi, Jésus? Regarde-moi, regarde à moi. Crois-tu en moi? Entends-tu ce que la parole dit de moi? Ce que mes témoins depuis des siècles et aujourd'hui encore disent de moi? Si tu sondes les Écritures, est-ce vraiment pour m'y trouver? Si tu te dis chrétien, est-ce vraiment à moi que tu t'attaches et moi que tu crois? Toi, crois-tu en moi comme en ton Sauveur? Et m'aimes-tu? Moi, je t'aime, dit Dieu. Et même, je puis te le dire, d'un amour éternel. C'est incroyable. Mais c'est vrai. C'est inexplicable, oui. Mais c'est vrai. C'est immérité. Oui, ô combien. C'est pour toujours. C'est pour toujours. Mais toi, demande Jésus, m'aimes-tu? Toi, non pas ton voisin, non pas tes amis. Toi, m'aimes-tu? Puissions-nous tous ici dire avec le disciple Pierre, avec toutes ses faiblesses, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Imparfaitement, c'est certain. Et ô combien? Insuffisamment, c'est évident. Peureusement, fragilement, timidement, osant à peine, qui suis-je pour penser pouvoir te donner quelque chose, te donner mon amour? Et pourtant, c'est ce qu'il attend de nous, malgré tout. Tu sais toutes choses. Puissions-nous dire cela, chacun de nous. Tu sais, Seigneur, que je t'aime. Amen.